Vous êtes bien sur Bac FM, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Culture en Vrac. Le mercredi, on décortique l'actualité de la Maison de la Culture Nevers Agglomération et de tout ce qui se passe, bien sûr, sur notre bâtiment, ainsi que sur tout le département. On y viendra d'ailleurs dans le cadre de la petite présentation qui va suivre. Et puis, bien sûr, aussi sur notamment bien les événements qui sont liés d'une part à la programmation, mais aussi en partenariat avec des institutions culturel, notamment bien sûr à Nevers et partout dans le département, et c'est le cas, ce sera le cas aujourd'hui notamment de l'Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais que nous allons accueillir dans la grande salle pour un concert, le concert de printemps qui aura lieu le 29 mars, et nous aurons l'occasion d'en parler avec Dominique Baran, le chef d'orchestre et puis directeur artistique de cet orchestre que vous connaissez maintenant bien. On a pris ce rendez-vous habituel de se voir tous les trimestres pour pouvoir parler de cette actualité, puis surtout des programmes qui sont proposés à chaque fois dans des décortiquer la teneur pour vous donner envie de venir découvrir les compositeurs qui seront français, en l'occurrence sur ce programme-là. On en reparle après, justement, une rétrospective de tout ce qui va se dérouler encore sur cette période à venir. On va commencer notamment avec un rappel pour le spectacle Jongloria Multitaskus, qui est donc la compagnie au pop-up, une compagnie dijonnaise qui nous rend visite, qui nous a déjà rendu visite un certain nombre de fois. C'est un spectacle tout public, famille, ce soir à Saint-Amand-Puisé. On est en liste d'attente, donc appelez-nous si jamais vous venez voir le spectacle, parce qu'on est complet, quasiment complet, donc ça sera très compliqué ce soir à Saint-Amand. Salle polyvalente de Clamcy, il reste quelques places demain soir à 20h et vendredi soir à 20h gymnase de Moulins-Gilbert. Il reste aussi encore quelques places, mais ne traînez pas, vous savez, côté jardin, ça fonctionne, ça marche très très bien, et ce spectacle entre cirque, jonglage et théâtre, bien sûr, attire toutes les convoitises du public. Et puis il y aura également une représentation, mais je crois qu'il reste encore seulement quelques places aussi, dans la petite salle, cette fois-ci samedi 28 mars, donc la semaine prochaine à 10h30, vraiment pour les familles du samedi matin. Un petit rappel également de Rhinocéros, mis en scène par Bérangère Ventousseau, le classique de Ionesco, ça joue demain soir, il reste encore des places. On a une très belle salle, on en est ravis, parce que c'est un classique du théâtre contemporain, bien sûr d'un texte emblématique de Ionesco qui parle des dondis, des ragots, du populisme, de pas mal de choses. Et évidemment, je crois qu'on est tout à fait dans le cœur de l'actualité, hélas, bien sûr, comme pas mal d'auteurs et d'autrices qui sont devenus des classiques, Ionesco en fait partie, puisqu'il avait bien sûr ciblé déjà la société qui est la nôtre aujourd'hui. Donc une pièce emblématique avec une super mise en scène, vraiment une très très belle réalisation de très chouettes comédiens et comédiennes. Moi j'ai vu le spectacle, je peux vous le conseiller. Si vous aimez le théâtre, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir redécouvrir ce texte de Ionesco. Et pour terminer, vous savez qu'on va avoir également la venue d'un chorégraphe de grand grand renom, Angelin Prèche-Locage, qui nous rend visite les 26 et 27 mars prochains, donc ça sera la semaine prochaine. Je vous en parle parce qu'il reste encore des places disponibles sur le spectacle Requiem, qui est vraiment sa nouvelle création, après le Lac des Cygnes qu'on avait accueilli il y a deux saisons de cela, un grand, grand moment de danse. Et bien vous devriez passer à nouveau sous le coup de l'émotion, de la surprise, également bien sûr de la qualité artistique proposée par Angelin, qui nous propose un spectacle tourné, vous l'avez compris. Et ça va d'ailleurs faire la liaison avec notre thématique d'aujourd'hui. On est sur les Requiem, donc il y aura de la musique sacrée, il y aura également de la musique beaucoup plus contemporaine et même de la musique rock sur cette chorégraphie. Mais le Requiem, c'est le passage d'un état à l'autre, d'un monde à l'autre. Et Angelin Prèche-Locage s'est servi de ce titre, en tout cas de cette idée, pour faire une ode à la vie au travers de la danse néoclassique. Des tableaux qui s'enchaînent de grande, grande qualité, évidemment, avec de la vidéo, toujours un petit peu le même principe pour Prèche-Locage. Et c'est toujours un spectacle de grande qualité qui vous est proposé, donc 26 et 27 mars à 20h dans notre grande salle. Voilà, on accueille aujourd'hui dans le studio Dominique Baran. Bonjour Dominique.
Bonjour.
On va pouvoir parler, évidemment, évoquer ce programme très alléchant proposé donc le 29 mars 2026 à 17h dans notre grande salle, dans le cadre du concert de printemps de l'Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais. Et avant de parler de tout cela, eh bien, on va faire une première pause musicale, notamment avec un des passages dont on va reparler juste après, notamment le début de la marche hongroise de la damnation de Faust par le London Symphony Orchestra, Sir Simon Rattle.
Thank you.
Rêves et réalités, un programme de chef-d'œuvre symphonique français de Berlioz à Ravel, tout un programme. Dominique, nous avons là en l'occurrence un programme de grande qualité que tu as souhaité proposer au public. On va le présenter, les présenter rapidement les uns après les autres. Là, vous avez entendu le début, notamment de cette marche hongroise, l'adaptation de Faust de Berlioz. Qu'est-ce qu'on va encore avoir au programme dans ce dimanche 29 mars ?
Eh bien, j'ai choisi un programme de musique française avec à la fois des grands tubes et puis quelques morceaux un petit peu moins connus du grand public. Un melting pot un peu qui représente la musique française symphonique du 19e et 20e siècle, puisqu'on va aller jusqu'à Debussy et Ravel. J'ai intitulé Rêve et réalité parce que c'est un programme qui se situe entre vision onirique et élan passionné, qui invite le public à un voyage musical où l'imaginaire se mêle au monde tangible.
Donc un programme qui va nous emmener de manière chronologique, un petit peu comme tu le fais d'habitude, hein,
c'est vrai que... Oui. J'ai essayé de concevoir quelque chose qui partait justement du romantisme avec cette célèbre marche hongroise de Berlioz qui est tirée de la Damnation de Faust, hein, qui va ouvrir le programme avec un morceau d'une énergie flamboyante. C'est un tourbillon orchestral, hein, comme on a pu l'entendre, où l'exotisme et la virtuosité transportent l'auditeur dans une fête presque irréelle. Voilà, ça c'est pour l'ouverture du concert. Ensuite, on aura une suite symphonique délicieuse qui est Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré, qui est un morceau un petit peu moins connu en quatre parties. C'est une musique de scène qui a été écrite par Fauré en 1808 pour une représentation qui a eu lieu en 1898. Voilà. Oui, parce que 1808, c'était un peu trop tôt. Voilà. C'est une pièce de Meyer Tenlink. L'orchestration, elle a été confiée à Charles Cochelin au départ. Bon, c'est la chanson de Mélisande qui est chantée en anglais au départ. C'est une suite qui est dans l'orchestration qui est assez fine, qui nous transporte dans une atmosphère de mystère et de poésie à la fois. On est entre la clarté et la mélancolie dans les lignes mélodiques. C'est une musique qui révèle la fragile frontière entre le monde intérieur des personnages, donc Péléas et Mélisande, et la réalité de leur destin. Voilà, c'est un grand poème en quatre pièces.
À la suite de ça, on aura Claude Debussy avec le prélude de l'après-midi d'un faune.
Voilà, alors là, c'est un incontournable de la musique française. Péléas, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Mais excusez-moi du lapsus, parce qu'il a écrit aussi Péléas, Péléas et Mélisande aussi de Debussy. On est dans l'éveil voluptueux, les désirs à travers une des pages les plus oniriques à l'aube du 20e, on est à l'aube du 20e siècle là, et on fait rentrer la musique symphonique dans une autre ère, puisqu'on sort de la période romantique, post-romantique, avec notamment Bruckner. On est aussi à la période avec Mahler, et Debussy comme Ravel se démarquent et sont dans l'impressionnisme français. On a vraiment une entité à part entière de la musique française par rapport à la musique allemande, la musique autrichienne notamment, où ce prélude à l'après-midi d'un faune, en la personne de Nirinsky, s'empare de cette musique aux courbes sensuelles, et on est dans la poésie née de Mallarmé pour en faire une des ballets fondateurs de l'art chorégraphique moderne. Donc ça c'est la genèse. Il est assoiffé de liberté, Debussy. Il prend ses distances avec le milieu musical officiel. C'est pour ça qu'elle est très originale, cette pièce, pour inventer un nouveau langage orchestral, à la fois qui touche presque la musique atonale, puisqu'on sort presque des tonalités complexes, et puis une orchestration qui est très fine, très personnelle. Voilà, on est vraiment dans l'impressionnisme français, donc c'est une pièce d'une dizaine de minutes qui est magnifique.
On suivra ensuite la danse bacchanale de Saint-Saëns et Dalida, Camille Saint-Saëns, oui, que vous connaissez peut-être également, notamment à l'origine des bacchanales et des fêtes bacchantes.
C'est tout à fait ça, là. C'est quelque chose peut-être de plus connu, cette danse de Saint-Saëns et Dalila. L'atmosphère, elle est à la fois sensuelle et incandescente. On a des rythmes orientalisants et une ivresse orchestrale qui évoque une danse sacrée où la réalité semble se dissoudre dans la transe de la danse.
On terminera avec, bien sûr, le plus grand tube. En tout cas, on en reparlera après parce que l'histoire de tube, en tout cas de morceaux extrêmement connus et de sa célébrité, toujours une petite controverse de la part des compositeurs et puis aussi des amateurs de musique. Le Boléro, évidemment, qui clôturera ce programme alléchant. Alors, déjà pour commencer, pour bien sûr ne pas manquer ce rendez-vous, les infos pratiques, on va en parler tout de suite, comme ça c'est vous savez à quoi vous attendre. Vous avez donc la possibilité donc d'avoir des renseignements, déjà vous savez sur le site de l'orchestre Concert Nivernais, évidemment, concertnivernais58@gmail.com. Ça c'est l'adresse mail notamment pour pouvoir avoir ces informations. Vous avez également les locations et les réservations qui seront possibles par Eloasso, la billetterie en ligne, la FNAC Nevers, et puis également le conservatoire le mercredi 25 mars, donc mercredi prochain de 10h à 17h30. Il y a une billetterie qui sera possible directement sur place. Et puis bien sûr, si vraiment vous n'avez pas encore eu l'occasion, avec toutes ces possibilités, de réserver vos billets une heure avant le concert, bien sûr, à la maison, à partir de 16h, donc le 29, plein tarif 23€, réduit 15€, et gratuit pour les moins de 18 ans et élèves du Conservatoire des écoles de musique de Raisonnières de moins de 26 ans. Voilà, vous avez un rendez-vous qui vous est proposé, évidemment, encore dans cette grande salle. Donc cette thématique et, on va dire, ce choix notamment de la musique française, on peut dire que est-ce que cette période qui va aller de 1850 à 1920, tu l'as dit, au début du XXe siècle notamment, est-ce qu'on peut peut-être le nommer comme l'âge d'or un peu de la musique française, avec tous ces compositeurs qui se sont succédés et qui se sont d'ailleurs influencés un peu les uns les autres? Est-ce que pour toi c'est une période qui est vraiment la plus riche peut-être dans la musique française, parce que c'est là que se regroupent ceux qui sont peut-être les plus connus dans le répertoire français?
Oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, le grand symphoniste de la musique française de la deuxième période du 19e, c'est Berlioz. Évidemment, qui a révolutionné déjà l'orchestration avec l'utilisation des cuivres, des percussions qui est très marquant, qui est à part entière et qui est à part à la fois Berlioz dans les grands romantiques par rapport aux Allemands, par exemple. Hein. Là, il y a un tournant dans l'écriture. Voilà, Berlioz. Et puis après, on va sur des compositeurs comme Fauré, Saint-Saëns, qui sortent du romantisme, qui sont un peu à la période charnière, mais qui ont une écriture quand même emprunt de Berlioz, hein, qui ont un héritage de Berlioz, mais qui apporte une touche personnelle. Alors évidemment, si on parle de Fauré, on connaît plus son Requiem que cette suite Pélas, mais c'est une orchestration, c'est une façon d'écrire qui est très très personnelle, qui est très fine. Voilà, c'est un grand mélodiste aussi, donc on retrouve aussi au niveau thématique le mélodiste hein, qui a beaucoup écrit pour la voix aussi, des voix, Fauré donc. Et puis son sens, on le connaît plus à travers sa danse macabre.
Oui.
Mais pas que, c'est concerto aussi pour violon, pour violoncelle, enfin bref, on a aussi quelques chefs-d'œuvre et cette danse bacchanale de Saint-Saëns et Dalida qui est une véritable fougue, voilà, avec une grosse orchestration, hein, notamment au niveau des percussions, gros staff de percussions, et puis les cuivres aussi, on a deux trompettes de cornet, comme dans Berlioz, donc là on a une orchestration qui est très très fournie. Et ensuite, on touche aux impressionnistes avec Debussy, donc qui sont les plus grands compositeurs français, les deux étoiles du début du XXe siècle, hein, qui ont beaucoup de similitudes. Et je ne pouvais pas passer ce programme sans en faire appel à eux. Et puis, comme tu dis, après le Boléro, on va peut-être en parler un petit peu plus en détail, mais que l'œuvre incontournable de Ravel, la plus connue, la plus jouée au monde, puisque je crois qu'elle est jouée toutes les 10 minutes dans le monde.
absolument incroyable.
Voilà.
C'est vrai qu'en plus, ce sont chacun, on va dire, a presque une œuvre emblématique. Alors, Boléro de Ravel, 500, c'est le carnaval aussi des animaux, bien
oui,
sûr,
oui,
extrêmement
oui,
connu.
Tout à fait, bien sûr.
Le Requiem de Forêt, bah, c'est l'œuvre emblématique. Debussy, bon, il y en a, le prélude après le Midi d'un faune. Voilà, il y a également la mer. Enfin, voilà,
la mer, c'était. Alors, j'y ai pensé à la mer, mais c'est un gros pavé, c'est un gros ça truc, demande hein. énormément ouais. de travail, énormément de répétition. Oui. C'est une œuvre très difficile. Oui. Donc, voilà, je suis plutôt allé sur le prélude.
Tous ces compositeurs, hein, voilà, en œuvre fétiche, en tout cas celle que je pense que n'importe qui est capable de citer justement une œuvre de ces cinq compositeurs, c'est aussi pour ça que je parlais de cet âge d'or en l'occurrence. Alors Pélas et Mélisande, pour continuer avec Forêt, Forêt c'était quelqu'un qui était avec une énorme sensibilité. Si vous écoutez le Requiem, c'est un Requiem qui sort un petit peu, je trouve, des autres qui ont été composés, que ce soit Verdi, que ce soit Mozart également. On est dans une œuvre qui est composée notamment pour ses parents, mais qui montre aussi toute la finesse, la sensibilité qu'il a. C'est un Requiem qui sort un petit peu de l'ordinaire, et c'est vrai que Pélas et Mélisande, c'est aussi une œuvre aussi très très marquante par l'extrême finesse de son écriture.
C'est ça, très 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 intérieur. Voilà, c'est une œuvre au niveau du contrepoint qui est très fine, qui est très personnel à Forêt, et on sent aussi dans son écriture il y a aussi des lignes qui apparaissent, qu'on a aussi dans le Requiem, qui est très original comme tu le dis, qui se démarque des autres Requiem qu'on a eu l'habitude d'entendre avant. Donc c'est très personnel, et il y a une fragile frontière entre le monde intérieur des personnages et la réalité, et puis leur destin, et c'est décrit dans cette musique là c'est quelque chose qui est très poignant, qui est très fin dans l'écriture et intéressante à découvrir, parce que je suis sûr qu'il y a, c'est pas une œuvre qui est beaucoup jouée finalement.
Oui, tout à fait.
Il y a peu d'enregistrements d'ailleurs.
Et pour se donner une petite idée, justement, on va écouter notamment la Sicilienne de Pélas et Mélisande.
C'est la
plus
connue, voilà.
Voilà, c'est
grand
ça.
Morceau de bravoure pour les flûtistes. Bien
là,
sûr.
Ça sera une version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France de Mikko Franck. Thank you. C'est absolument magnifique. Hein. C'est une œuvre que vous pouvez donc redécouvrir, en tout cas dans sa version entière, la sécilienne de cette suite symphonique Pélas et Mélissandre, donc le 29 mars à 17h par l'Orchestre symphonique des concerts hivernais. Alors ça fait partie de ce programme extrêmement riche qui est proposé. Il y aura également, on l'a dit, notamment donc Debussy avec l'après-midi, prélude l'après-midi d'un faune, une œuvre emblématique. Est-ce que c'est l'œuvre majeure de Debussy? On en parlait tout à l'heure, on s'est dit c'est la mère, peut-être également, mais est-ce que c'est l'œuvre la plus emblématique d'après toi? Parce que il y a la musique orchestrale, il y a aussi le piano avec Debussy, quand même une grosse partie avec des airs très connus au piano.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est l'œuvre emblématique. C'est une des œuvres emblématiques, oui. Il y a un raffinement dans l'orchestration qui est indéniable, avec à la fois des lignes mélodiques envoûtantes quelque part. C'est plein de mystères, cette pièce. Donc, pour ça, peut-être, c'est une pièce emblématique. Mais si on s'en réfère aux autres grandes œuvres, tu parlais de la mer, mais aussi Jeu, qui est un moment écrit en 1918, qui est une révolution dans l'orchestration moderne, en tout cas. On a Iberia aussi. Debussy, c'est, y a une richesse. Ouais, tu parlais de la musique de piano, les nocturnes notamment, sont des pièces fabuleuses. Voilà, c'est. On sent bien l'atmosphère de Debussy quand même. Voilà, il y a une économie de moyens au niveau de l'orchestration. Il y a des cuivres, il y a les cordes, mais il n'y a pas de trombone, il n'y a pas de trompette, contrairement à la mer. Une seule percussion, les crotales à la fin. Donc c'est une économie de moyens. Mais c'est à la fois très très léché, très fin dans l'orchestration et très subtil. Voilà.
Tout à l'heure, on parlait du boléro. Et donc, pour venir à cette histoire du boléro, alors le boléro, c'est une œuvre qui, comme tu l'as dit, est la plus jouée au monde. Pourtant, il n'y a que des mélodies qui se répètent de bout à l'autre de l'œuvre.
Économie de moyens,
voilà,
aussi.
Enchaînement de tous les instruments, comme ça on découvre tous les instruments. Et en plus, c'est une œuvre qui a été écrite dans un contexte particulier, qui n'a pas été écrite, notamment pour la danse. Ça a été écrit pour la danse dans le cadre d'un ballet. Et puis finalement, ça a changé. Alors, d'ailleurs, Ravel a même dit lui-même que pour lui, c'était une œuvre tout à fait banale et qu'en gros, il n'a pas compris pourquoi c'était aussi célèbre.
Et ça, c'est le mystère de la musique, la magie de la musique. Oui, ça a été une commande de la danseuse et chorégraphe amie de Ravel, Ida Rubinstein, au départ. Hein. Et comme tu dis, une économie de moyens, deux mélodies. La première, le thème A, le plus connu. Hein. Et puis un thème B, un peu plus jazzy, on va dire. Hein, très influencé par le jazz aussi, Ravel, du coup. Et cette fascination, c'est aussi dû au rythme. Un rythme, un ostinato qui revient toujours à la caisse claire, qui imite les castagnettes. Alors, il était très influencé par l'Espagne, Ravel, comme d'autres compositeurs français. C'est un peu ce côté, on cherchait un peu d'exotisme, et c'est l'exotisme à proximité de l'Espagne. Ça a marqué une économie de moyens. Et où c'est très intense, cette musique, c'est qu'avec ce rythme, cet ostinato qui va crescendo, cette entrée instrumentale. Et effectivement, Ravel disait que c'était peut-être pas ce qu'il avait réussi de mieux dans sa vie de compositeur, mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est la façon dont il a orchestré. C'est-à-dire, il va commencer cette mélodie, le premier thème par la flûte, ensuite ça va être la clarinette. Et tout ça, c'est alors, je ne sais pas s'il l'a pensé, mais c'est génial au niveau de l'orchestration.
C'est bien réfléchi.
Il y a un hautbois d'amour aussi, par exemple. Il y a un Célesta. Et le mariage des timbres. Et puis, on est envoûté par cette montée, ce grand crescendo, qui est un des plus grands crescendo de plus en plus fort dans l'histoire de la musique. Et au fur et à mesure, l'orchestration devient de plus en plus fournie. Et on arrive au final avec cette modulation qui est fabuleuse, cette coda finale complètement envoûtante. Et je crois que c'est pas pour rien si ça a été repris pour des musiques de films comme Les Uns et Les Autres, par exemple, qui datent un petit peu, et pour des chorégraphies, enfin différentes chorégraphies par des grands chorégraphes. Voilà, c'est une musique qui est extraordinaire et qui est envoûtante à la fois.
Voilà. À redécouvrir, évidemment, sans modération. D'ailleurs, ce sera le cadre du concert pédagogique qui aura lieu voilà. le lendemain après-midi avec une salle qui est déjà pleine, école et collège notamment, tout un travail qui a été mis en place aussi d'ailleurs avec Corinne Legendre sur un côté vraiment pédagogique, donc il y aura une sorte de participation, mais ça évidemment pas tout révélé, ça dans le cadre purement scolaire, donc en après-midi, donc c'est aussi un des rendez-vous et qui sont très importants, notamment dans le cadre de notre partenariat. Et pour terminer avec ce beau programme aussi, la danse bacchanale, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les danses bacchantes en tout cas, alors je disais aussi une origine bien plus ancienne parce que c'est quelque chose
c'est
qui
est en l'honneur de Bacchus, divinité du vin et de l'ivresse. Alors ça veut tout dire.
On va très très loin dans le temps en tout cas.
Ouais, ça a évolué. Alors, au départ, c'est des fêtes un peu orgiaques romaines au départ. C'est bacchanal là. Et puis ça s'est appliqué ensuite aux musiques et aux danses, au caractère de fête. Voilà, c'est à la fois festif, mais ça a été repris par d'autres compositeurs comme Wagner également, par exemple, dans ses opéras. En fait, Saint-Saëns était un grand compositeur des œuvres de Wagner qui l'ont aidé à la création de son opéra en France. Il a été beaucoup influencé par Wagner, qui est quand même le plus grand compositeur d'opéra, je vais dire, d'Europe centrale. Donc très influencé. Voilà, mais avec une orchestration qui n'a rien à voir avec celle de Wagner. C'est vraiment une orchestration propre à la musique française qui évoque celle de Théo Delibes un peu ou de Bizet. On a aussi dans l'orchestration la même façon d'orchestrer. Et puis une inspiration personnelle. C'est une danse qui est teinté d'orientalisme, il était aussi très influencé. Là, on a vu Ravel influencé par l'Espagne, mais lui influencé par la musique orientale. Et notamment, il inscrivait ses musiques dans ses programmes de concert.
C'est un peu le côté latin qui ressort du côté français. Finalement, il y a la French Touch en fait dans la musique enfin classique. Il y a un côté évidemment qui est beaucoup moins, en tout cas nordique ou tout du moins Europe centrale que les Allemands, que les Autrichiens.
Bien sûr, on se démarque quand même avec des influences, comme tu dis, orientales, espagnoles. Voilà, c'est la richesse de la musique française qui se démarque. On aurait pu reprendre effectivement cette musique romantique, post-romantique allemande, à la Bruckner, à la Mahler, mais on se démarque voilà, avec à la fois la musique impressionniste, mais cette musique empreinte d'exotisme.
Venez vous faire votre propre opinion de cette musique française très riche, évidemment précurseuse aussi d'ailleurs de la musique contemporaine du XXe siècle d'ailleurs, avec Messiaen, avec d'autres encore compositeurs. C'est voilà un rendez-vous
énormément influencé par Debussy, par Ravel. Tu parlais de Messiaen, mais pas que tous les contemporains ensuite des années 50 qui ont eu comme socle d'écriture ces impressionnistes qui sont Ravel et puis Debussy.
Tout l'intérêt de découvrir ce programme qui va certainement vous faire comprendre un petit peu en effet toute cette influence de cette période, de cet âge d'or de la musique contemporaine française en l'occurrence. C'est l'occasion de découvrir donc ce programme le 29 mars à 17h, je vous l'ai dit, à la maison dans la grande salle en l'occurrence, pour pouvoir passer à nouveau un moment. On espère que vous serez nombreux à venir assister à ce concert avec un grand orchestre, là vraiment
On est à 71-72 musiciens, oui, voilà, parce qu'on a rajouté un Célestin.
Voilà,
c'est ça. Voilà, oui. Alors là, ça, franchement, je crois que c'est la formation dans tout ce qu'elle a de grandiose au niveau du nombre de musiciens dans chaque pupitre.
On se donne rendez-vous, allez, dans quasiment 10 jours pour ce grand rendez-vous. Alors avant de se quitter, notamment avec justement un extrait de la danse, le début de la danse bacchanale de Saint-Saëns et Dalila par l'Orchestre National de France et Christian Massé-Larroux, on retrouve juste après cette émission, et bien notamment avec les manufacturiers du rock et Hugo qui a interviewé notamment ses organisateurs pour le concert de samedi. On va donc se quitter en vous souhaitant une excellente journée à l'écoute de Bac FM. Merci Dominique d'être venu.
Merci à vous.
À très bientôt.
Thank you.